Yeah, 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 yeah. Everybody.
My life, my life, my life, my life in the sunshine. Everybody loves the sunshine.
De retour à l'antenne.
Sunshine. Everybody loves the sunshine. Sunshine. Folks get down in the sunshine. Ooh, ooh, ooh. Sunshine.
Yeah.
Folks get brown in the sunshine. Sunshine. Everybody loves the sunshine. Sunshine. Everybody loves the sunshine. Sunshine. Folks get down in the sunshine.
Yeah, yeah, toujours sur la radio s'enchaîne avec Tony et Charlie. Alors, Tony, j'avais encore une question. Moi, je l'ai suivi un peu sur YouTube et sur Facebook, etc. Et je sais que tu es parti avec Icar, que tu as fait le tour du monde, ou presque le tour du monde.
Je ne sais pas, voilà. Pas encore.
Mais de grandes capitales et de grands monuments, dont je t'ai vu danser sur la muraille de Chine. Raconte-nous cette expérience, parce que franchement, c'est quelque chose de...
Alors, il faut resituer un petit peu le contexte. À la base, moi, j'ai un bac plus 2 en commerce international, en gestion des opérations d'import-export. Et en fait, dans le cadre de mon diplôme que j'ai passé à Lyon, en fait, dans le cursus, il y avait 12 semaines de stage qui étaient programmées dans le cadre de nos cours. Et en fait, il fallait choisir la destination étrangère à la France dans laquelle on allait étudier et faire notre stage en marketing et développement de produits et tout ce qui se rapportait au transport des marchandises qui va avec. Il s'avère qu'en 2009, en fait, j'ai fait mon premier voyage à Shanghai avec un camarade de classe à qui je fais un immense big up. C'est mon frère comme jamais, Clément. Et en fait, dans le cadre de ce premier voyage, déjà, il faut savoir que c'était de notre propre initiative qu'on a décidé d'aller en Chine. On voulait marquer le coup à travers nos études et vraiment faire une expérience qui allait aussi un petit peu changer nos vies, ce qui a été le cas. On a eu un coup de cœur, les deux, pour ce pays qui a été sujet à beaucoup de controverses et de superstitions, spéculations et autres. Nous, dans le cadre d'un travail et de la SCOUS qui était bien, C'est qu'on a pu apprendre à découvrir ce pays dans sa profondeur. On y allait 7 semaines la première fois en 2009. Et depuis, je suis retourné 5 fois. Dont une fois avec mon gars sûr, Ricard, qui est un camarade de classe, un frère de quartier depuis plus de 25 ans. Et en fait, j'ai emmené 6 amis à moi durant mes 5 voyages. Sur les 5 voyages, il y en a deux fois où j'ai emmené des camarades en disant « Les gars, moi, ce pays, je peux vous en parler des heures, vous ne comprendrez jamais la puissance du truc. » Donc, dès que j'y vais, je vous avertis et let's go. Donc, j'ai emmené 7 potes à moi en tout, dont Icar, pour ceux qui connaissent, c'est une des plus belles plumes du rap français, j'ai envie de dire, carrément. Allons dans les superlatifs. Underground, en tout cas, Icar, mon gars sûr, et toute l'équipe du 47. Et du coup, en fait, avec un autre frangin, Guigui, ben, ça avait rendu curieux tout le monde, en fait. Quand je rentrais au quartier... Ah, t'es en Chine, mais c'est comment? C'est quoi les bails, trucs, machin, tout, tac, tac, tac. Et il y en a que ça a intrigué. Et puis dès le moment que j'ai dit, bah voilà, venez les gars, moi j'y retourne. Les autres fois, j'y suis retourné en fait, c'était pour du business un petit peu. Pour essayer de trouver des fabricants et des fournisseurs de matériaux qui marchent à l'énergie solaire pour l'Afrique. Donc c'était ça. Et aussi, j'y suis aussi allé pour représenter une marque, un indépendant qui avait créé sa marque de chocolat. Et j'étais parti à la recherche de potentiels partenaires qui seraient prêts à acheter ces produits et à les vendre sur leurs marchés locaux. Et du coup, quand Icar et Guigui sont venus, en fait, j'ai profité avec eux d'aller dans d'autres endroits que je n'avais pas pu faire avant. Les 3 premiers voyages, j'étais beaucoup à Shanghai. Après, c'est vrai que j'ai eu la chance de pouvoir aller à Shenzhen, à Guangzhou et notamment à Pékin. Et sur notre petit trip pékinois, on s'est dit il faut aller à la muraille. Et on s'y est retrouvé dessus. Et c'est vrai que moi, à chaque fois, j'essaie de faire des voyages, j'essaie de collecter des petites vidéos de passages que je fais un petit peu dans tous les pays du monde où je vais. Donc j'ai des passages de danse où je suis en Thaïlande, j'en ai à New York, j'en ai en Chine. J'avais pas encore de bonne caméra à l'époque, mais normalement, je suis censé en avoir en Afrique aussi sur des vieilles cassettes là. Mais du coup, voilà, j'ai dit, allez, vas-y, on marque le coup, quelques steps que j'ai enchaînés. On a passé, en fait, il faut savoir qu'il y a 4 morceaux pour la muraille de Chine. Ouais. Et il y en a un qui s'appelle Badalin, qui est le côté commercial, fashion. Et si je ne m'abuse, Moutia Yun, c'était sur le morceau sur lequel on était. On y a passé 7 heures de temps. On a fait un aller, un retour, on s'est arrêté, on a fait des pauses, on a regardé le paysage, on prenait des photos, j'ai pris les petites vidéos. Ça faisait déjà 4 heures qu'on marchait, j'étais déjà cuit, mais j'ai dit allez, j'imagine. On y va. J'ai dit allez, on y va.
De kilomètres
voilà,
de
on n'a pas fait comme les autres qui prennent le petit téléphérique là, parce que voilà, pour il y en a qui prennent le téléphérique, du coup, les personnes âgées, handicapées, etc., les gens qui vont prendre des photos pour leur mariage ou autre, les équipes de musique qui font des machins, qui font de la vidéo, de la photo, bref. Et du coup, nous, on est monté à pied, on a fait un aller, un retour, et du coup, on a marqué le moment, j'ai fait une petite vidéo, puis on s'est tapé des grosses photos. Et puis, en plus, c'était en période un petit peu hivernale, on a des grosses vestes et tout. Mais c'était magnifique. Franchement, c'est quelque chose que je pars du principe que, voilà, à défaut de mourir riche, je vais mourir le moins con possible. Et je pense que l'expérience fait le savoir et non l'inverse. On peut regarder des tonnes de documentaires, on peut lire des tonnes de bouquins, on peut connaître l'histoire d'un pays par cœur, avec toutes les dates, mais si on n'y a même pas mis un pied, pour moi, ça n'a aucun sens. Et ce que j'ai aussi constaté, c'est que tous les stigmates et tous les préjugés qu'on peut véhiculer sur un endroit du monde doivent être abolis et cassés. Au même titre que quand l'image que se font de l'Afrique avec des campagnes ridicules comme celle d'Helvetia, certes, il y a des problèmes d'eau, certes, il y a des problèmes d'électricité, mais dans ce misérabilisme constant ou dans ce pointage du doigt constant, toujours pointer du doigt des doigts en disant « Ah, mais vous, chez vous, vous êtes comme ça, mais vous, vous êtes comme ça. » Tu ne pourras jamais comprendre comment les gens sont si tu ne vas pas chez eux pour comprendre le cadre de vie dans lequel eux sont, qui te permettra aussi de prendre du recul par rapport à là où toi tu te trouves et le comportement que toi tu as au quotidien. Des gens, ils donnent, je donne un exemple bête, hein. Il y en a, ils font des campagnes de dons pour les handicapés, pour l'Afrique qui souffre, pour les petits latinos qui se font exploiter dans les champs de ci et de ça, les champs de bananes ou autres. Mais c'est le genre de personne qui dit même pas bonjour à son voisin quand il sort de chez lui.
Ouais.
Tu vois ? C'est-à-dire que si tu as déjà pas un minimum de savoir-vivre avec tes gens au quotidien autour de toi, dans la rue ou pas. Arrête de vouloir croire que tu vas sauver le monde, t'es déjà pas sociable avec ton prochain à côté de toi, tu vois. Donc pareil pour aussi la vision qu'on se fait du monde, On pourra jamais se faire une réelle vision du monde si on va pas dans ces endroits-là en question. C'est juste pas possible. Donc la Chine a été pour moi le déclic. Parce que du coup, d'avoir grandi en Europe en tant qu'afro, ça me faisait déjà deux pôles de vision. Et d'être vraiment allé à cet endroit-là, j'ai dit « Ah ouais, non, c'est de la folie. » J'ai dit « Ah ouais, c'est terrible, quoi. » Donc voilà.
Et en Chine, la danse dans le hip-hop, c'est populaire, ça...
C'est incroyable. Incroyable. On est à des années-lumière. Sont... Bah, c'est ça qui paraît surprenant, hein, pour le coup. Bah, justement, Breaker au même titre que tout, nous à Genève, en tant que jeunes issus de l'immigration ou pas, aux Suisses de Chouche qui sommes la Suisse populaire, on essaie de développer des trucs. Alors que là-bas, il y a des institutions qui sont créées. C'est-à-dire qu'il voilà, y a quand même des privés qui tiennent compte du fait que sa jeunesse chinoise doit s'émanciper à travers les trucs qu'elle kiffe, qu'elle aime vraiment. Et des marques comme Skechers, ils sponsorisent des stages de danse dans des hôtels 4 étoiles pour les danseurs qui veulent apprendre avec les grosses têtes de leur ville. J'ai été dans des écoles de danse qui sont carrément dans les centres commerciaux. Je me suis retrouvé à faire des jams de danse dans des rues de Shanghai blindées. On se retrouve à faire des démos devant 200, 300 personnes. Et les gens aiment ça. Et il n'y a pas de question de « Ah, mais parce que t'es Renoir, alors ils kiffent. Hey, » Les danseurs chinois, ils sont là. Simplement qu'ils appartiennent à la couche populaire, mais ils n'ont pas l'argent pour sortir de chez eux. C'est et c'est extrêmement difficile parce que un pays qui veut être solide, il doit être, comment dire, il doit avoir une homogénéité déjà à l'intérieur de son pays. Ça sert à rien d'aller dire « Ouais, mais vous, chez vous, c'est comme ça. » Alors qu'en réalité, personne balaye devant sa porte. Du coup, moi, en allant là-bas, je commence à comprendre aussi ces paramètres-là. Mais le vivier local de danseurs, il est extrême. Je me suis retrouvé dans des studios de danse sur 3 étages avec des studios de photos, vidéos. En fait, tu rentres dedans, tu peux tout faire. Tu viens, tu t'entraînes, tu prépares ton spectacle, tu fais un show, tu prépares une choré, tu viens juste t'entraîner, tu fais un étage au-dessus, tu veux faire une séance photo pour ton prochain truc, pour ton prochain book, pour ton pour une démo, un spectacle, n'importe quoi, pour ton CV, tu as les photos. Tu veux faire une vidéo, tu viens de faire un petit deux, trois shoots de vidéo, tu montes à l'étage et tu peux te faire ton montage directement sur place. Mmh. Et je me rends compte qu'en fait, nous, on est à Genève, la ville des banques, machin, si, ça, blabla, on est au ras des pâquerettes. Mmh. Maintenant, on va faire des demandes de subventions de 5, 10 000 francs, ils vont nous regarder pour de la danse. Je dis, mais oui, il y a des gens qui font de la danse depuis plus de 30 ans, qui ont dansé pour les plus grandes stars de la musique américaine que vous-même vous écoutez. Ils ont droit au même mérite. Les gays, ils font ça de 30 ans, tu leur demandes, s'ils demandent 1 000 $ pour 2 jours de workshop, pour être là en tant que jury, faire le déplacement et partager son savoir que lui, il a accumulé sur 30 ans, il faut payer. C'est par principe et respect pour les pionniers de ces danses-là. Et en Chine, ça, ils l'ont très bien compris. C'est pour ça que la majeure partie des grosses têtes de la danse, elles ne tournent même plus en Europe. Tellement il y a eu un manque de respect, un manque de légitimité. Après, certes, il y en a beaucoup aussi qui ont profité. Ouais, je suis l'Américain, je viens, je me la raconte. Ouais. Certains en ont profité de ça, mais pas tous, c'est pas vrai. Il ne faut pas voir les Américains comme des gens super arrogants et machin et tout ça. Mm-hmm. C'est simplement que même l'approche... C'est-à-dire que tu accueilles quelqu'un chez toi et puis le gars, il te demande un jus de fruits puis tu lui sers une bière. Ouais. Tu vois, il y a aussi ce paradoxe-là qui a été très présent. Et du coup, en Chine, beaucoup de DJ, une scène rap aussi qui se développe. Et c'est mortel. Moi, je me suis fait ma communauté, mes potes de la danse à Shanghai. Et c'est des Chinois, c'est des natifs. Et il y a des gars de Russie, tu peux trouver des gars de France, des gars des States, des expatriés ou des gars qui sont là pour 3 mois ou des gars qui... un peu en mode clan d'eau, comme ça, il passe entre les mailles du filet. Mais incroyable. Je me suis retrouvé vraiment à faire même des festivals d'électro où il y avait un stage hip-hop spécialement dédié. On a été invité en tant que guest pour danser. Mais des festivals dans le quartier des banques de Shanghai qui finissent à pas d'heure. Des trucs inimaginables, vraiment. Et c'est vraiment cool.
Mais c'est vrai qu'en Suisse, on a un petit. Enfin, je sais pas si c'est dans toute la Suisse, mais à Genève. On est une ville qui est connue mondialement, quoi. On représente aussi pas mal la culture suisse à travers le monde, etc. Mais il y a pas de l'argent, il est placé dans des trucs des fois éphémères qui valent des millions et 3 mois après il y a plus rien. Mais le même argent, on l'aurait mis dans pour créer une fondation de culture et de production. Ça resterait, quoi. On gaspille pas mal. Enfin, on gaspille de l'argent. Partout, sauf pour la jeunesse, quoi.
Je le confirme. Et ça, c'est une réalité pour l'avoir vécu. Je ne vais pas donner de nom, je ne vais pas faire de polémique maintenant. J'espère que tout ça fait partie du passé. Mais voilà, on investit plus sur les feux d'artifice que sur l'humain. Donc, pour reprendre trois événements, il y a un festival qui s'appelait Vision Urbaine, les fêtes de Genève, entre autres. On constate bien que au jour d'aujourd'hui, on investit dans le matériel et pas dans l'humain. Et le problème, c'est qu'au final, toute cette énergie que l'humain met, et c'est une énergie qu'il peut transmettre à un autre être humain. Quelqu'un qui chante, il transmet une énergie. Les gens qui comprennent ce que l'artiste veut transmettre, cette énergie, vont la capter. Et ils vont la réutiliser pour quelque chose dans leur vie où il manquait d'énergie. Donc tout ce flux d'énergie qu'on amène, au final, ils n'en ont plus rien à faire parce que pour eux, ils estiment qu'il est plus rentable. Et j'espère ne pas mettre des gens à dos. Mais j'ai aussi un petit peu l'impression que Genève, au final, est devenue une vraie blanchisserie.
Ouais, on a des activités pour les jeunes qui coûtent bonbons. Et un petit budget pour créer, je sais pas moi, un centre d'art urbain, par
exemple.
Bah,
c'est ce sur quoi on est en train de travailler en ce moment. Parce qu'on a compris qu'encore une fois, on ne sera jamais mieux servi que par nous-mêmes. Et je veux bien qu'il y ait de tout. Qu'il y ait des animations qui conviennent à tous les publics. Mais si on ne respecte pas les structures qui sont, elles, à l'origine de l'émergence de toutes les nouvelles générations d'artistes sur les 10 dernières années, et je ne parle pas que de Positive Soul en soi, soit dans le reggae et dans le rap, on est beaucoup de structures. Mais déjà, on a très peu de moyens. On doit survivre en Suisse. Genève est le canton le plus difficile à vivre en Suisse. Donc il y a vraiment beaucoup de paramètres qui jouent contre nous, mais on est encore là. Et maintenant, il y a aussi le fait que, j'ai pas peur de le dire, il y a des problèmes raciaux. Y a beaucoup de gens, des Suisses de choses, qui considéreront qu'un jeune Suisse blond aux yeux bleus qui fait de la danse hip-hop avec ses potes renois, rabza et asiatiques, c'est, pour lui, c'est un Suisse perdu. Hein ? Y a ce facteur-là aussi. Malheureusement, les gens, ils tapent hip-hop sur Google, c'est tout ce qu'ils font. Ils ne viennent pas à un de nos événements pour réellement voir comment ça se passe. Donc ce fossé qui s'est créé avec les années à travers les médias, à travers des gens de notre milieu qui ne font pas le boulot, il faut dire ce qu'il y a aussi. Et des gens de notre milieu, moi, je les qualifie de voyous. Ils font même pas partie de notre milieu, mais prétendent en faire. Donc il y a aussi tous ces paramètres-là qui a joué contre nous pendant longtemps. Il y en a qui ont tapé du poing sur la table, allez tous vous faire foutre. Il y en a. Moi j'ai fait ça au début, mais après j'ai essayé de comprendre les subtilités. L'association de danse contemporaine a jusqu'à, je crois, 2 millions, 3 millions de francs suisses par budget à l'année. Je me dis, mais nous, on a besoin du dixième. Et nous, on tient une année, on fait des events, on aura des gars de New York, on aura des gars du Japon, on aura des gars de ci et de ça. Mais il y a toujours ce problème de... On vous aime bien, mais de loin. Hein ? Il y a un truc qui réside, et aussi les générations. Je pense que demain, si on a des gars qui ont grandi avec la culture hip-hop, cette musique-là et les autres, ben, et qu'en face, ils ont... Pas quelqu'un forcément qui fait partie de leur institution, mais qui aussi de son côté a de la bouteille et puis qu'il s'est forgé un vrai background dans ce milieu-là, ben au moins ils pourront se parler. Ils disent ok, moi je suis plutôt issu de la street, pour ainsi dire, je fais mes événements, mais sache qu'ils sont carrés. Le gars en face va dire ok, moi je travaille pour telle banque, mais nous on est carrés, mais on respecte ce que vous faites parce qu'on estime que la dimension pédagogique et d'émancipation des jeunes est bonne pour l'image de notre entreprise. Travaillons ensemble. Et aujourd'hui, c'est là-dessus que nous, on bosse. C'est à ça qu'on va arriver. Mais chaud.
Enfin, moi, par exemple, quand tu parlais de Jason Nevins et tout ça, Soul Sonic Force, machin, Run DMC, toute cette époque, moi, c'était 10 ans avant toi, quand j'avais 7-8 ans, on passait ça. Et faut savoir qu'en Suisse, toute cette culture, c'était extraterrestre. Quoi. En 88, par là autour, c'était... ça venait d'une autre planète, quoi. Et le rap, qui a toujours été destiné à disparaître selon toutes les opinions de l'époque...
C'est celle qui vend le plus, par exemple, aujourd'hui, en France.
En France, depuis toujours, ça vend le plus, mais au jour d'aujourd'hui, c'est toujours là, le hip-hop. Pourquoi ? Parce qu'il y a des choses qui n'ont pas changé. Le rock'n'roll, il est arrivé, il a changé son époque. C'était, on pouvait être tranquille avec sa copine, écouter de la musique dans un parc. Mais le hip-hop, lui, il a pas fini de changer les choses. C'est pour ça qu'il est toujours là. C'est parce que les gens se sentent militants, quoi.
Et puis je pense que comme les DJ vont jouer de la musique hip-hop, les danseurs vont danser sur de la musique hip-hop en fonction des styles, pour le b-boying et aussi la funk, la latin funk qui est très présente. Les beatmakers vont faire des beats à profusion vu qu'ils ont les machines et avec très peu de moyens. Si on prend un artiste comme JD de Détroit, c'est le beatmaker le plus prolifique, paix à son âme, mais incroyable. On retrouve des centaines, des centaines, des centaines de beats partout. Il a produit pour les plus grands. Mais aujourd'hui, si tu parles à certains jeunes, JD, ils vont dire ouais. Parce qu'il y a aussi une position. C'est-à-dire qu'il y en a, ils se dédient corps et âme au mouvement et à la culture. Ils oublient un peu les lights. Ils oublient un peu le fashion et tout. Ton époque, ta génération, vous avez été marqués parce qu'il n'y avait que ça. Tu vois,
ouais,
c'était
vrai
vraiment c'était les figures de proue du moment. NTM et IAM, pendant des années, c'était les figures de proue du rap en France. Alors que je pense que la France contient un nombre incalculable d'MC qui déchirent et qui sont dedans. Mais ils vivent aussi avec leur temps. On ne va pas leur reprocher d'avoir des sonorités plus récentes par rapport à aujourd'hui. Je suis sûr qu'NTM et IAM l'auraient fait si ça avait été le cas. Hein, de mettre ces rythmiques un peu West Coast avec les sirènes et tout ça et machin, c'est pas français. Si tu veux faire du rap français puis tu veux rester dans le cadre, bah, tu mets de l'accordéon, tu mets de l'harmonica, tu mets... Ouais, ce que je veux dire. Donc, à un moment donné, voilà, c'est aussi ça, se dire que notre milieu est tellement dense, il y a tellement de choses à comprendre et à analyser, et il faut faire les liens, les gens ne se fatiguent plus la tête. Hein. Même les gens aujourd'hui, la presse papier, ils la lisent quasiment plus. Donc d'aller comprendre un mouvement qui pour eux, ils le considèrent encore comme marginal, ils disent « Oh non, mais de toute façon, ouais, ils font la danse du rap, ils tournent sur la tête, c'est tout ce qu'ils savent faire. » Des gars comme moi et d'autres, on est là un petit peu pour changer la donne. Quoi. Et
puis, ouais, c'est vrai qu'en plus, depuis des années, le hip-hop, c'est une activité... Pour les jeunes en plus, parce que...
C'est une culture.
Voilà, il faut le voir comme un arbre. Ouais, ouais. Il y a différentes branches.
Ouais.
À l'époque, on était branchés, tout le monde savait un peu scratcher, tout le monde savait un peu graffer, tout le monde savait un peu... Mais ça, c'est un peu le package qu'on nous a vendu en Europe. Hein.
Ouais,
tu veux être dans la culture hip-hop, il faut savoir tout faire, il faut être chaud. C'est venu aussi pas mal de la France, hein.
c'est vrai, à savoir.
Mais par contre, aux États-Unis, c'était pas du tout comme ça. C'est-à-dire que quand l'émergence du... Le boom du breakdance a été beaucoup plus fort en Europe qu'il ne l'a été lui-même aux États-Unis. Il faut savoir qu'à un moment donné, où en France, en Europe, où ça commence à exploser, aux États-Unis, c'est considéré comme un truc basique. Quasiment plus personne n'a fait de break, de b-boying. Et c'est des gens comme Mr. Freeze du Rocksteady Crew qu'on a eu la chance d'inviter pour une conférence. Il y a les vidéos sur le net. Il nous expliquait très bien. Il dit, mais les gars, moi, j'ai dû aller bosser après. Hein. Les gens, ils nous voyaient comme les stars du break, mais moi, j'ai dû aller charbonner. Après, j'ai dû aller bosser pour nourrir ma famille, tout ça. Donc, aujourd'hui, il y en a, ils se font de l'argent avec, c'est très bien, mais qu'au moins, ils rétribuent à la culture pour ce qu'elle est, son côté ouais. fédérateur. Sauf que, ben, il y en a, ils sont rentrés dans le business, hein, pur et dur, et puis à prendre des DJ pour des jukebox, à prendre les danseurs pour des marionnettes, et à prendre les rappeurs pour des machines à débiter des sottises pour exciter les petits cons hein, qui vont en boîte sous alcool. Tu vois,
ouais.
Donc petit con, pardon, mais pour dire voilà, on peut boire de l'alcool et s'ambiancer tout en écoutant du rap sans devenir schizophrène et se prendre pour un fou.
Ça c'est toujours sympa, un petit barbecue avec de la musique du Tupac et puis.
C'est clair et net, mais pas jouer des rôles quoi. Faut dissocier, voilà. Il faut laisser le vécu au gars qui chante quoi, sans chercher à devenir à un.
S'identifier.
Ouais, et puis aller dans un extrême quoi.
Ouais.
Et si tu sens que t'as vraiment un sens commun avec la vie, que le gars il chante, ouais, ma mère elle était en prison, ta mère elle a été elle-même en prison. Après, il faut avoir aussi ce recul, tu vois.
Tout à fait.
Et ça n'a pas été toujours simple pour tout le monde, à la fois les gens du milieu et puis ceux de l'extérieur au final. Hein. Moi demain, je me marche en training, j'aime être habillé en training, pas pour montrer que je suis lazy, mais je suis un sportif, je suis tout le temps en vélo, je suis tout le temps en mouvement, je mets un pull à capuchon, c'est facile à mettre, je vais pas mettre mes costards, je vais pas mettre. C'est ridicule, mais par contre, si on me croise dans la rue avec la cravate, ah, bah, du coup, bonjour monsieur, bonjour. Ah, vous allez bien? Je passe avec mon training, vous dites, oulala, la petite dame, son sac direct, voilà.
Elle saute du trottoir parce que.
Ouais,
pour la défense de ceux de l'époque, à la Tupac, je vais quand même dire, c'est quand même. À l'époque, eux, ils ont un peu dépassé la ligne, on va dire, à des moments, mais c'est des gens qui disaient qu'ils racontaient les histoires souvent des autres, qui faisaient du storytelling, qui racontaient des histoires. Parfois inventés, parfois réels, sur des gens qu'ils ont vus
ouais.
vu dans leur entourage, même des rappeurs comme Ice-T qui a créé le gangsta rap, disons. Il a jamais raconté une seule histoire criminelle qui était propre à lui-même. En
ouais,
fait.
C'est ça, ouais, oui. Comme je dis, mon rap est nourri de mon vécu et pas de mon soi-disant talent. Il hein. y en a, ils ont fait le choix de vraiment dire ce qu'ils vivaient purement et durement. Il y en a, ils ont misé sur leur talent d'écriture. C'est pas plus mal, du moment qu'ils sont restés vrais avec eux-mêmes. Hein. Et c'est surtout ça qu'on a toujours voulu. Moi, je me rends compte, je veux pas taper sur le doigt et ni cracher sur les anciens, mais certains groupes qui étaient habillés par des grandes marques de prêt-à-porter fashion avec des polos à 1000 francs, 2000 francs de l'époque, tu dis, mais tu peux pas revendiquer la street et machin, les gars qui souffrent, les gars qui dorment dans des lits superposés à 5, des mecs, des mamans qui partent à 7h, qui reviennent à 21h. Tu vois, à un moment donné, tu dis, mais ouais, bon, tu faisais de la musique, ok. Donc, à chacun un petit peu de savoir comment il se positionne. Tu veux faire de la musique, mais n'en fais pas trop. Ça reste du rap, donc fais attention parce qu'il y a d'autres gars, ils vont chanter des trucs qui vivent réellement. Donc toi, choisis ton créneau, reste-y, mais viens pas raconter des bêtises et fais pas des clips pour en mettre plein la vue aux gens alors que tu prends le bus comme tout le monde. C'est de la merde.
Ouais,
pour être franc, c'est de la merde. Moi, demain, si je dois faire un clip, je le ferai sur mon vélo. Tout je n'aime me vend en vélo, donc il n'y aura aucun souci. Je peux rouler sur mon vélo, être là, machin, mais je ne vais pas être sur mon vélo, les gens me voient dans la ville, et puis faire un clip demain et sortir des gueux, des guns, des machins. Je dis, mais Tony, tu te fous de la gueule de qui? Ouais. Arrêtez. Et puis dans la danse aussi, pareil, les gens n'ont pas pris le temps d'aller connaître les sources, s'intéressent très peu à la musique, ils s'intéressent tout de suite au mouvement. Alors que le mouvement que tu vas faire est issu du type de musique que tu écoutes, comme j'expliquais à Sergio tout à l'heure, dans le cas du popping. Le popping, à la base, pour ceux qui connaissent, c'est assimilé à une région des États-Unis. Donc il y a le popping, le waving, le Tetris, le stroboscope, le animation et le boogaloo style. Et du coup, le popping et le boogaloo style, il y en a un, c'est New York, il y en a un, c'est LA. Et c'est boum, boum, boum. Ça c'est West Coast à fond, alors que New York c'est plus Africa Bambaataa, même si j'aime pas le citer pour d'autres histoires, mais du coup c'est pas la même danse, c'est pas les mêmes danses, mais on arrive à un stade où les deux cohabitent. Ils se sont tous mis d'accord en disant, voilà, on sait que ça vient de telle région, mais maintenant, il y en a, ils font boogaloo pop, donc ils peuvent mixer les deux ensemble. Et je pense que c'est toutes ces subtilités-là aussi qui va renforcer aussi un petit peu l'implication des gens, en fait, au final. Et l'investissement, ils diront, mais attends, mais je fais des trucs, ça vient pas de nulle part. Ça a eu une histoire. Et je pense que c'est très important pour les nouvelles générations de danseurs d'être dans ce créneau-là, d'aller chercher les infos. Ils ont un outil de malade, Internet. Nous, on avait les cassettes VHS. Il fallait, dans les événements, faire des workshops avec des grosses têtes. Ça coûtait une blinde à l'époque. Ouais. Maintenant, on peut avoir des stages avec des gars qui ont 30 ans d'expérience pour 20, 25 francs.
Ouais.
En 2 heures, tu n'auras jamais plus appris qu'en un mois d'entraînement, toi, tout seul dans ta chambre. Donc, il faut aussi que les gens ils sortent de leur zone de confort, hein, et qu'ils arrivent à se dire, ouais, mais je veux être partie intégrante de ce mouvement. Je l'aime, je kiffe, ça m'habite. Mais il y a un travail d'apprentissage. Parce que là, maintenant, on peut plus rigoler, on peut plus trouver d'excuses. Ouais, mais tu sais, je connaissais pas. Non, on a Internet. C'est mort. Tu peux voir des gens comme moi, alors que je vais avoir 33 ans. Je suis un jeune, mais j'ai fait mon travail. Tu peux aller voir des gars, des OG de 40, 45 piges, ils t'en raconteront d'autres encore. Et moi, je vais les écouter comme un petit. Hein, d'autres plus jeunes que moi m'écouteront comme un grand, et ainsi de suite. Mais c'est devenu très difficile parce qu'il y a la fame, il faut s'afficher, il faut être dans le machin.
Ouais, à l'époque, pour connaître un petit peu, il fallait vraiment faire le tour de tous ses amis, de ses voisins, d'écouter tout le temps les CD. Il n'y avait pas Internet, comme tu as dit.
Voilà.
Et quand tu commençais à dire, ouais, j'écoute ça et ça, l'autre ouais. disait, non, mais moi, t'as rien compris, j'écoute ça. Et tu sortais un disque et tu tombais sur les fesses.
Tu prends une gifle, là, tu m'as sorti ça d'où wow. Et du coup, tu peux triper, écouter l'album 2 fois d'affilée, machin, et te poser. Il y avait aussi cette culte, voilà, moi. À défaut de ne pas avoir de platine, justement, ben voilà, je donnais des cours, on m'offrait des bons d'achat, j'allais dans les MediaMark, les machins, les Fnac, et je repartais avec des piles de 10, 15 CD, je les empile. Là, je dois avoir une caisse, je dois en avoir au moins 300 ou 400.
Mm-hmm.
Je les écoute pas, mais ils sont là. Demain, j'ai une vraie stéréo, j'ai un truc, j'ai mon ordi, j'en glisse un, je suis tout heureux. On est parti faire un combat. Un pote, il avait que le lecteur CD, j'ai mis une pile de CD, je lui dis, même replonger dans mes propres CD, je dis, mais voilà, c'est ça le truc. Voilà, on a le digital, c'est très bien, hein, mais quand on n'avait pas les moyens et pas Internet, il fallait se faire son bagage musical, son bagage historique, son bagage artistique, sortir de sa ville, aller se frotter à d'autres gars dans d'autres battles, dans d'autres villes de Suisse, etc., etc., etc. Au jour d'aujourd'hui, les gens ont l'impression de maîtriser leur truc parce que voilà, ils arrivent à faire des vidéos depuis leur chambre, à faire des trucs depuis leur chambre, mais le mieux, c'est le terrain. Ça reste indispensable pour moi. Le terrain, il faut aller là où ça se passe.
Tout à fait.
Vraiment.
Alors ok, là sur ce, donc en fait on va faire une petite pause musicale. Est-ce que tu as une chanson à nous proposer?
Ouais, ben là je vois qu'il y a Putain d'époque featuring Nekfeu. Ce morceau, c'est voilà, c'est pour montrer les contradictions entre la liberté d'expression un petit peu et ce que les médias nous vendent en termes d'information. Et voilà, c'est un morceau qui incite les gens à lire entre un petit peu entre les lignes, quoi. D'autant plus que le morceau de ce clip, le clip de ce morceau a été censuré pour des questions de soi-disant copyright à l'image et tout ça. Voilà, mais si vraiment les gens sont au courant de l'actualité et qu'ils écoutent précisément tout ce qui est dit dans le morceau, on comprendra que c'est pas à cause du clip que le morceau, c'est pas à cause du clip et des images que ça a été censuré. Donc voilà, Putain d'époque.
Alors on écoute ça tout de suite.
Yes. Nekfeu.
Nekfeu.
Yeah. Yeah. Oh. Hey, Losa, dis-moi quel est le fuck. Dis-moi pourquoi les gens sont autant dans l'abus. Est-ce que quand un curé pédo touche un gosse, on demande aux chrétiens de France de sortir dans la rue? Liberté, égalité, déjà j'y crois pas tant que ça. Mais à leur fraternité, c'est clair qu'on attendra. Je crois pas que les Français sont tous, ils rappuient les attentats. Y'en a pas mal qui l'étaient déjà bien avant ça. Losa, je vais dire quel est le blème, c'est que par les temps qui courent, se réveiller chaque jour est un cadeau hors de prix. D'où leur viennent leurs armes, qui est-ce qui leur refourgue? À qui profite le crime, à qui profite le i? Et pourquoi je doute de chaque version officielle, de l'efficacité de l'état d'urgence et de vos fiches S? Et pourquoi quand quelqu'un se fait agresser dans le trou, avant de lui porter secours, ils sortent leur iPhone 6S. J'ai du mal à m'en battre les couilles de ce qui me dépasse. L'histoire nous a montré qu'ils sont prêts au pire des crasses. Stratégie de la peur pour faire consentir les masses aux sales qui vont perpétrer sur le reste du globe. Et toi rien que t'avales, et toi rien que tu gobes. T'es concerné que quand le sang t'éclabousse les potes. Pour que tes blèmes se résolvent, t'as qu'à te foutre en l'air. Canon sur ta tempe, presse la gâchette du Glock. Un jour, un ami m'a dit: ton problème c'est que tu rappes trop fort. Tu gaspilles ton énergie pour tu. Tu donnes du caviar au porc. Alors j'ai dû simplifier mes écrits. Mais y'a des fans qui sont pas d'accord. Ils réclament du dossier à l'époque. Désolé mais la loi du plus grand nombre l'emporte. Losa, dis-moi, quel est le fuck? L'underground remplit ni les poches ni le but des gosses sur la vie de mes proches. Quand on veut être un boss, on s'inspire des boss. Les fucks sont-ils vraiment tous gays? Pour qu'on dise pédé comme un fuck. Je me pose la question pour vrai. Ça m'intrigue, nigga, what the fuck. J'ai un problème avec ce game qui me sous-estime comme Marais à l'OM. La grosse crise identitaire que traverse mon peuple. Les négros sont prêts à croire en tout sauf en eux-mêmes. Sur tous les continents du monde, les miens sont dans le mal. Ma terre n'est pas pauvre, non, c'est qu'on l'appauvrit. Là est toute la nuance, est-ce que tu m'as compris? À très haut risque est la mission que j'accomplis. Bref, et toi ma belle, quel est le problème? Tu croyais connaître les hommes, hein? Allez, essuie ton rimmel. Lis des poèmes, dans quelques mois c'est les soldes. Dis-toi que la next time, tu devras juste être plus vif. Qu'une histoire d'amour, c'est un poison mortel. Dont le seul antidote, c'est l'histoire d'amour d'après. Donc si j'enchaîne les histoires, c'est juste pour survivre.
Losa, dis-moi quel est le fuck. Quel est donc ton foutu problème? On vit une putain d'époque. Je n'y vois aucun foutu problème. Losa, dis-moi quel est le fuck. Quel est ton foutu problème? On vit une putain d'époque.
Partage le gâteau avec tes gars, même si ça te fait qu'une part. Tellement de tâches, je ne nie plus de te plus, suffit qu'une balle. Pour entacher ta répute, paraît t'arrêt plus car. Dès que t'acceptes un service, ça te tue plus vite qu'une balle. La vie c'est comme un running, sous la menace d'un prolicat. L'ancien moi je le renie, il n'en reste qu'un reliquat. Violent comme un rolling, stone sous zéro inga. Stop, je trouve le prix Nobel ironique quand je pense au Rohingya. Losa, dis-moi quel est le problème. Ils ont toutes sortes de plans pour mieux confiner nos rêves. Je dis ce que je pense, après j'ai des problèmes. Une nouvelle sorte de plan venu confirmer la règle. La flamme du FN sur le mur. Et ma jeunesse qui se consume, hurle. Faut-il qu'on les brûle pour qu'ils finissent dans une urne? Fuck, moi je veux toucher tes 5 sens. Je suis plus à l'école, pourtant j'ai toujours des absences. J'accompagne mon sahab à la skémo. On est vendredi, après on dînera chez mon zinc. Pour Shabbat, voilà la skémo. On cultive honneur et fraternité, les jeunes savent. On ignore les discours de leur intelligentsia. Mais ça veut pas dire que c'est nous contre, non? Engrainer les petits, c'est moins contraignant que d'imiter les gens sages. Quel est le foutu fuck?
Yeah. Devant Dieu, y'a pas de number one. J'essaie juste d'être un number one. Devant Dieu y'a pas de number one. Boy, j'essaie juste d'être un number one. Devant Dieu y'a pas de number one. J'essaie juste d'être un number one. Devant Dieu y'a pas de number one. Boy, quel est donc ton foutu problème? Hein? Yuri!
alors de retour sur la radio sans chaîne, ici avec Tony et Charlie. Alors justement, donc, je voulais aborder un sujet avec toi, Tony, en suivant ton parcours. Je sais maintenant que tu t'es mis à la boxe thaïlandaise, que tu as un parcours, et puis je voudrais que tu nous expliques un petit peu en fait ton parcours et comment tu as commencé. Et qu'est-ce que ça t'a apporté aussi dans la vie, dans ton hygiène de vie, et etc.
Yes, bah, franchement, la boxe thaïlandaise, je suis un rookie, hein. Je suis vraiment un débutant. J'ai deux combats à mon actif.
Bon, je les ai vus. T'avais pas l'air d'un rookie, là.
Les apparences sont trompeuses. Hein. Mon coach m'a tiré les oreilles. Mais, mais ouais, ben, ouais, comme je disais tout à l'heure, le sport, j'ai toujours kiffé. J'ai fait un petit peu de basket. J'avais fait aussi un petit peu d'athlétisme à l'époque. Et l'intensité et la niaque qu'il fallait mettre dans le foot à l'époque où j'avais joué toutes ces années, bah avec la danse, j'avais un petit peu de la peine à la retrouver. J'ai toujours aimé faire la danse de façon intense, mais non cadrée. Je reste un freestyler, j'ai pas commencé la danse dans les salles de danse, dans les écoles de danse, à faire des 1, 2, 3. On avait un miroir, mais on était dans une maison de quartier, rien à voir. Et j'avais un prof qui était un passionné de culture hip-hop avant tout, avant d'être un b-boy. Donc c'est lui aussi qui me faisait jouer des platines, il me faisait jouer des vinyles chez lui, il montrait des graphes, il montrait des vidéos, des VHS, des battles à Hostet, etc., etc. Donc pour ça c'est une chose, mais après c'est vrai que je retrouve, pour moi la danse et la culture urbaine faisaient un tout, donc j'étais habité un petit peu partout et je n'étais peut-être pas forcément assez assidu dans la danse pour devenir un grand b-boy, et il y avait des problèmes de santé aussi, et par le coup j'ai dû un peu freiner le break, garder la touch en apprenant les autres styles de danse debout, notamment que ce soit la house, le pop ou le freestyle. Mais ce manque était plus que présent. J'avais besoin d'un truc où je suis en sueur, mon cœur il bat fort, il faut y aller. Et du coup en 2014, lors d'un voyage en Chine, j'ai fait direct Shanghai Phuket avec un de mes amis français expatrié que j'ai rencontré à Shanghai à l'époque, Big Up Asia. Je l'ai rencontré, on s'était rencontré les années précédentes. J'allais à Shanghai, je l'appelais, t'es à Shanghai à telle période? Oui, mais après je vais à Phuket. Et du coup, il m'a dit, bah, moi je vais voir mon coach de boxe thaïlandaise là-bas, je vais faire mes entraînements, j'ai un combat bientôt et tout. Si tu veux te mettre à la boxe sérieusement, bah vas-y, tu viens avec moi. Là, je te garantis que ça va être chaud. Donc je me suis retrouvé, je suis parti à Phuket. C'est la première fois que j'allais en Thaïlande. J'avais besoin de mer, j'avais besoin de soleil, j'avais besoin de manger boire de l'eau de coco, de manger des mangues. J'avais besoin de chaud, j'avais besoin de trucs qui se rapprochent un petit peu de ce que je connais en Afrique, du moins au Ghana. Donc du coup, là pour le coup, je dis allez, let's go, on y va. Et j'ai entamé mes 3 premières semaines de boxe thaïlandaise là-bas. Par rapport à l'hygiène de vie, ça a été incroyable. Parce que du coup, ça a été la première fois de ma vie où je reprenais les droits sur mon corps. J'ai grandi en Europe. On mange de tout. La nourriture africaine, j'en mange depuis que je suis tout petit. J'en mange encore aujourd'hui. Mais il y a aussi la nourriture européenne. Donc, si tu ne gères pas, ta vie, elle est beaucoup alimentée par le sucre, le sel, le gras. Et moi, j'ai toujours été un gros mangeur jusqu'à aujourd'hui. Je suis vraiment un très gros mangeur. Mais ça m'a appris à me dire que prends ce dont tu as besoin et prends pas ce que tu as envie. Et là, pour le coup, ça m'a fait faire une cure, une vraie diète. J'ai régénéré. Franchement, c'est ce que j'ai ressenti. J'ai vraiment régénéré tout mon corps. Il est reparti à zéro. C'est-à-dire que mon système digestif, ma sueur, l'odeur de ma sueur, ma musculature, ma vision des choses aussi, hein, mes réflexes, en 3 semaines, ça a été le changement radical. Et je pense que pour toute personne qui croit avoir des problèmes de santé, c'est plus un problème d'hygiène de vie. Ouais. Et du coup, voilà, j'ai eu la chance d'aller en Thaïlande. Il faisait 25 degrés à 8h du matin. Donc moi, la journée typique, c'était debout à 7h30. Je buvais un demi-litre d'eau. Je mangeais un petit peu de pastèque, un peu d'ananas. À 8h, j'étais au bord de la plage. J'ai déjà une demi-heure de corde à sauter. Je marchais un quart d'heure. J'allais à mon entraînement de 9 à 11h. Je revenais, je prenais un smoothie aussi, vraiment, j'étais vraiment affamé à cause de l'entraînement. Je prenais un petit bol de riz, un truc de nouilles léger. Je retournais à l'hôtel entre midi et 14h30. Il faisait vraiment très chaud. Je restais à l'abri de 14h30 à 16h30. J'allais faire 2 heures de stretching et de yoga au bord de la plage. Et là, là par contre, la température, elle est montée à 32, 38, hein, 35, 38 pendant 2 heures. Et après, je reprenais 20 minutes. J'allais à mon entraînement à 17h jusqu'à 19h. Et là, c'était entraînement intensif parce que c'était one-to-one. Donc, c'est toi et le coach. C'est pas les entraînements en groupe. Ouais. Donc là, pendant 1h30, t'as pas le choix. Il faut y aller, tu vois. Et repousser ses limites. Si on te dit 100 coups de genou alors que t'es un novice, je vais dire 100, mais t'es là quoi? Et du coup, voilà, c'est aussi ça, se dire que ouais, vas-y, sors de ta zone de confort, va là où toi-même t'as jamais pu aller. Et la boxe thaïlandaise m'a vraiment mis dans ce mood-là. Et ces 3 premières semaines, bah, j'ai perdu 13 kilos. Mais j'ai pas perdu les 13 kilos de quelqu'un qui est malade. J'ai perdu 13 kilos de trucs qui me servaient à rien dans mon corps.
c'est
différent. Donc, et puis la nourriture aussi, sur place, je veux dire, c'est pas parce que j'avais un meilleur pouvoir d'achat que j'allais au Starbucks, au McDo, au machin. Au contraire, j'allais vraiment dans les restaurants locaux goûter les saveurs du pays, les plats typiques, traditionnels. Et j'ai de la chance, c'est mon ami aussi, il est marié à une Thaïlandaise. Donc voilà, on avait la chance d'être bien orientés. Et on n'allait pas du tout en Thaïlande, ni à Phuket, encore plus Phuket pour ce que les gens croient.
Oui.
Encore une fois, ces images spéculatives. Oui, il y a ce que... Mais c'est une toute petite partie, c'est infime à côté de toutes ces îles magnifiques, ces mers incroyables, ces rochers, ces jungles qu'on peut visiter, faire de la plongée, du snorkeling, c'est juste ahurissant. Mmh. Voilà, donc c'est vraiment toujours repousser mes limites, mes frontières dans la tête, les fausses idées qu'on m'a introduites par le biais de l'histoire. L'histoire est toujours écrite par les vainqueurs, comme on dit, hein, non pas par les vaincus. Donc je veux plus être un vaincu, je veux juste être un gars qui comprend le monde dans lequel il vit. Mais la boxe thaïlandaise, ça a été magnifique. Il faut savoir que la boxe thaïlandaise, l'ancêtre, c'est le Muay Boran. C'est un art qui était pratiqué par les soldats du roi. C'est quand même fait pour tuer. Donc eux, ils connaissent le maniement d'armes, ils connaissent tout. Et le Muay Thai, Thai Boxing, c'est la version plus moderne. Avant, ils ne mettaient pas les gants, ils mettaient les ficelles, hein, etc., etc. Et... du coup, bah, boxe thaïlandaise a vraiment été pour moi un renouveau. C'est voilà, je sentais que je m'essoufflais dans la danse parce que je n'avais pas tous les éléments réunis pour me sentir bien dans ce mouvement. Moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup dansé en club, en soirée, parce qu'il n'y avait pas de salle. Il n'y avait pas de salle pour s'entraîner. Il n'y avait pas de battle tant que ça. Hein. Donc, les seuls endroits où tu peux écouter du son fort, dans lequel tu te sens légitime, c'est la boîte de nuit. Ou les salles, les fêtes de quartier que certaines associations organisaient à la salle du Mall ou à Honnay ou dans certains quartiers de la ville où il y avait les soirées, machin et tout. Ouais. Au-delà de ça, nada. Donc, arrivé à un moment donné, voilà, je me suis dit, il faut que je me donne les moyens. Je n'allais pas dans les salles de danse, je n'allais pas devant un miroir, machin. Donc, j'ai construit mon niveau de danse comme ça, réellement. Par la suite, la boxe thaïlandaise, bah, j'ai eu la chance d'aller en 2014 à Phuket. Ensuite, j'y suis retourné un an plus tard. Par contre, j'ai fait un autre camp au sud de Bangkok, à Rayong. Et là, pour la petite anecdote, ben, on avait un coach qui était péruvien.
Yeah.
Ouais. À la base, lui, il venait s'entraîner parce que c'était un gros du Muay Thai au Pérou et tout, à Lima. Et je me suis retrouvé en Thaïlande à parler français, anglais, avec un coach qui parle en anglais, en espagnol... à pratiquer une boxe d'un autre bled, mais pourtant on est chez eux et ça a été un combo culturel magnifique. C'était juste ahurissant et puis j'ai fait encore ces 10 jours-là. Puis c'est vraiment là que j'ai appris en Thaïlande. Par contre, en revenant, bah, je me suis inscrit au City Shock Muay Thai et, qui est tenu par New, à qui je fais un grand salut et qui à la base était un de ceux qui donnait des cours aux avanchets, ouais. À l'époque où il y avait les cours avec Coco. Et du coup, il a décidé de monter son club qui est à Chenbourg. Et ça va faire 1 an et demi, bientôt 2 ans que je suis là-bas. Et j'ai 2 combats à mon actif, en classe C, amateur. Et voilà, c'est une tuerie. J'ai l'impression d'avoir encore 20 ans dans ma tête. Donc,
génial.
Ça
moi,
déchire.
Moi, j'ai une question, parce que j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de potes à moi qui n'avaient jamais dépassé leurs limites, que ce soit dans le sport ou autre. Par exemple, enfin moi j'avais fait l'armée, donc ça m'avait, j'avais su que j'avais pu faire une marche très longue avec un sac très lourd, tu vois, que j'avais dépassé mes limites. Mais j'ai vu des potes à moi qui n'étaient pas du tout comme ça. Ils sont partis en Thaïlande et ils se sont lancés. Il y en a, c'était, je sais plus comment on appelle ça, le truc avec la barre, CrossFit ou autre.
Ouais, ouais.
Et ça a changé leur vie parce que là-bas, justement, il y a vraiment une culture un peu de bonne hygiène de vie avec tendeur de sport, etc.
Très,
par jour,
très spirituel.
Ouais, c'est... J'ai l'impression que, enfin, je sais pas si c'est, je suis jamais allé en Thaïlande, mais est-ce que tu ressens que ça t'a, par rapport aux entraînements d'ici, ça t'a amené un truc en plus d'aller là-bas? Est-ce que c'est vraiment
la chance que j'ai eue, c'est qu'en fait, j'ai pu vraiment comprendre les rudiments de la boxe thaïlandaise chez eux. Donc, quand tu arrives au stade, déjà l'engouement qui est autour des combats. Rien qu'à Phuket, tu vois des affiches des combattants partout. Ils passent avec des petites camionnettes. Next fight, Patong Boxing Stadium, Sanyamen Boxing Stadium. Et puis tu vois les gars, ils passent avec la camionnette. Tu vois le gars, il est en train de faire son jab et tout. Il lance des affiches, il donne. Tu sens que ça va être l'événement, tu vois. Il tourne dans la ville de Phuket. C'est juste incroyable, t'hallucines. T'es là, ouais, ça va être chaud. Et puis quand t'arrives, attention. Donc les combats, ça commence avec les petits, les pros de 12, 13, 14 ans. Je dis, mais c'est incroyable, il a 13 ans, il ne devrait pas faire ça. Mais ça, ils deviennent des hommes. Ouais. C'est-à-dire que quand on arrive dans une société où tu couvres trop tes enfants, on est trop dans le « Ah, mon chéri, mais le gamin il se transforme soit en Tanguy, ou soit il se transforme en Terminator, et puis il va insulter sa propre mère qui, il y a quelques temps en arrière, avant qu'il ait 2-3 poils de barbe sur la tronche, je dis « Ah, merci maman », et puis il l'insulte parce qu'il doit rentrer à minuit, tu vois. Et alors que là, dans la culture, il y a la musique, il y a la danse, l'introduction de chaque boxeur. Vraiment, c'est vraiment quelque chose de magnifique à vivre, à regarder. Et puis tu commences à 12, 13, 14, et puis ça commence à monter. Et il y a même les demoiselles. Faut aller voir les combats de boxe thaïlandaise des dames. C'est hallucinant. Mais il n'y a pas d'animosité. Il n'y a pas d'agressivité ni de nervosité. Il n'y a pas de « ouais, je vais te déchirer, je vais te casser en 8 ». Comme on retrouve un peu cette mentalité dans la boxe thaïlandaise, dans ces régions du monde là où on se trouve. Et du coup, moi, c'est ça qui m'a encore plus donné d'engouement pour cet art-là, parce qu'il y a la dimension spirituelle, il y a la dimension physique, il y a la musique qui va avec, il y a l'environnement et l'envie de se dire que, voilà, j'ai toutes les armes, j'ai les coudes, j'ai les genoux, j'ai les low middle high kick et des techniques de contrer, c'est hyper subtil, mais pour ça il faut avoir la chance de pratiquer avec quelqu'un qui connaît vraiment ça. Et puis le City Shock Muay Thai, voilà, on a notre coach, il fait ça depuis qu'il a 8 ans, hein, et son père lui-même était un champion, donc on a la chance d'aller là-bas et de vraiment apprendre tous les rudiments de la boxe thaïlandaise et du Muay Bolan. Et pour revenir à ce que tu disais, c'est clair que ce pays a quelque chose de magique, je sais pas c'est quoi, mais toute personne qui va là-bas, elle revient à quelque chose qui a changé.
C'est vrai.
Ça, c'est évident. Le massage en soi, ils sont très posés, très tolérants. Tu vas dans certaines villes de Thaïlande, tu vas trouver des gens, mais de tous les gabarits, des tatoués, les catoeils. Nous, ce qu'on voit de l'image du transsexuel, hein, ben, eux, c'est les êtres androgynes. C'est voilà, c'est eux, ils sont
boys,
plus, voilà, c'est cette notion là qu'ils ont plus que celle qui le transsexuel. Il y en a aussi, bien sûr, on se comprend, mais eux ils sont vraiment dans le bouddhisme a aussi ce côté un peu ouais les gars, doucement, on est tous des âmes. Eux ils croient à la réincarnation, tout ça, mais dans le quotidien, les gens, ça va des caps, les deux mains ensemble, ils disent bonjour, t'es tout de suite bien accueilli, c'est de la folie, ils font pas de distinction, c'est juste incroyable. Donc je suggère à tout le monde, hein, honnêtement, je pense que le fils du touriste thaïlandais va m'appeler là. Je votais un bon Anthony. Non mais voilà, mais en même temps c'est cette curiosité naïve que je souhaite à tout le monde de nouveau avoir. Parce que la Thaïlande, qui dit que tu vas pas avoir la même approche en allant en Afrique? Moi j'aimerais bien que les gens se disent, ouais putain, j'étais au Ghana, c'était incroyable, j'avais l'impression d'être en Thaïlande, tu vois, j'aimerais bien. Mais voilà, on a tellement d'escrocs francs-maçons de présidents africains que, voilà, bon, le nôtre, j'espère qu'il va changer la donne, mais vu comme il a parlé à Macron. Mais, mais voilà, voilà que... On renivelle l'image des pays par le haut parce que les gens ont fait leur propre expérience et qu'ils peuvent vraiment la raconter en toute sincérité. tu vois. Tout n'est pas rose en Thaïlande. Je vais pas commencer à faire le gars. Oh, tu y vas, il y a pas de problème. C'est faux. Les gens souffrent quand même. C'est pas, ça reste un pays du tiers-monde, tu vois. Et l'influence occidentale, dans beaucoup de cas, pêche. Parce que, tu vois, à Phuket, déjà à 10h du matin, t'as des mecs, ils sont là, ils s'envoient des Guinness, ils s'envoient de la vodka, ils restent devant leur balle. Ils sont à 13 000 km de chez eux, puis ils regardent des matchs de Premier League anglaise devant un big écran, alors que les mecs, ils pourraient aller faire du sport, du trekking, des trucs de fou. Ouais. Tu vois, et puis tu dis, mais gars, mais. Va dans cet endroit pour les bonnes choses, sinon reste chez toi. T'as le câble en Angleterre, mais reste en Angleterre, regarde tes matchs, mon gars, et descends au pub de ton coin. Si tu vas dans un autre pays, embrasse la culture du pays dans lequel tu te trouves. Tu vois ?
C'est ça, si c'était la tradition de faire des grandes brasseries en Thaïlande, on irait peut-être là-bas pour ça, mais autrement, c'est vrai que c'est un peu.
Ah, ils ont leur bière locale, ils ont leurs alcools locaux, ça tue, tu vois. Donc, tout le monde y trouve son compte, tu vois.
Et dis-moi, est-ce qu'en Thaïlande, la culture de la danse hip-hop, elle a percé
Je me suis retrouvé. Bah, tu vois, c'est ça aussi qui est incroyable. C'est que moi, j'ai jamais voulu divorcer, hein. Je reste un amoureux du football, même si j'ai conscience que le milieu est crapuleux à souhait, quand je parle du foot business au sens très large. Mais les potes qui jouent en bas de chez eux, le match de quartier, ça reste de la tuerie. C'est des moments fédérateurs incroyables. Mais pendant justement le fait que j'étais en Thaïlande, à Phuket, à machin, à faire ma boxe, à me redécouvrir à travers cet art, bah, la Bangla Road, qui est la rue de l'animation, la nuit, et uniquement la nuit, parce que le jour, c'est une rue passante comme les autres, parce qu'il faut que les gens sachent, bah, on se retrouve là, il y a les clubs, il y a les bars, ça joue du rock, du hip-hop, un peu de la house, la tech, et puis tu marches dans cette rue, et puis au bout d'un moment, tu sais pas, t'as un agglutinement de gens, puis tu regardes comme ça, et puis tu te rends compte qu'en fait, il y a deux crews de b-boy dans une rue qui fait même pas 250 mètres, t'as deux crews de b-boy qui te font des shows de b-boying. Et là, moi, alors là, autant vous dire que là, ça a été le summum de mon voyage. Je me dis, ah non, je suis en Thaïlande. Je suis au chaud, je mange comme un malade, je fais de la boxe comme un malade et il y a des danseurs. Je déménage, je fais quoi? Et du coup, je vais vers eux. Ouais, ça va les cas, b-boy, ouais, me too. Oh, ok, cool, come. Je me mets à danser avec eux dans la street. Et puis du coup les passants ils disent, mais attends, il fait quoi le Renoir avec cette équipe de Thaï là à danser? Les mecs ils sont, mais il fait quoi lui? Mais il fait partie du crew, lui, il fait partie du groupe ou bien? Et du coup bah voilà, je me suis retrouvé à faire des sessions avec eux, on dansait dans la street. Et même moi je mettais un billet, parce que faut savoir que ça reste des petits du peuple. Qu'on dit street dance, danse de rue, bah c'est exactement ça. Les petits ils viennent avec leur petit box, ils le posent. Ils avaient entre 19 et 22 ans. J'ai déjà passé 25, j'étais déjà à 30 ans presque, donc. Et je me remets à danser avec eux, et puis ils sont là, je mets un billet dans leur truc à eux, j'en ai rien à foutre, moi, sans battre, moi, ça c'est peanuts pour moi, mais j'en ai rien à foutre, je vais danser avec eux, et je leur donne des ronds, et comme ça, ça les met bien. Et du coup, ça a attiré les gens, ils se retrouvaient avec... Et ils font ça tous les soirs. Okay. Et il y avait un autre crew pareil, il y en a même, le deuxième crew, c'était même pire. Le deuxième crew sur la même rue avait un meilleur niveau, mais ils n'avaient même pas de poste. Et ils dansaient carrément sur le son qui était émis depuis le bar devant lequel ils dansaient. Okay. Non, mais tu vois... À un moment donné, tu te dis, mais attends, il y a un truc qui va pas là. Donc, je peux me retrouver à Shanghai au milieu de buildings avec des studios de fous et je retrouve toujours cette même essence, cette même rage avec des petits jeunes à Phuket en mode street dance pur et dur au milieu de la rue des fêtes, de la fête quoi. Ouais. Et moi, donc, je me sens comme un poisson dans l'eau. Parce que justement, le fait d'avoir tellement pris le b-boy comme quelque chose que je savais que c'était universel et que. J'aimais ça, ben ça m'a jamais coupé. J'étais pas arrivé à un stade du ah, j'arrête de danser, non, je me concentre. Ouais. Let's go.
C'est l'inverse de ce que tu disais tout à l'heure. En fait, quand t'es en Suisse, t'as l'impression qu'on te met à part dans une caste d'artistes urbains, on t'isole, on fait pas attention à toi, mais tu peux voyager dans le monde et retrouver des gens qui ont les mêmes valeurs que toi et le même.
Exactement. Et là, du coup, tu dis waouh, hey, repoussons les frontières. Non, ou dis. Éliminons-les.
Hein. Voilà, ouais.
Éliminons-les, parce qu'à un moment donné, c'est ça qui va nous enfermer dans cette espèce de paranoïa, dans cette espèce de. Ouais, vraiment, c'est. Non, mais t'es dans la crainte tout le temps, constante. Tu fais 3 pas en avant, t'en fais 5 en arrière, t'en fais 10 en avant, t'en fais 15 en arrière. Et à un moment donné, il faut arrêter de se poser les questions, il faut vraiment y aller. Non, mais attends, on m'a trop parlé de ce truc-là. Il faut que je me fasse ma propre expérience. Il faut que je me fasse ma propre idée. Et ça passe que par l'action, vraiment. Donc, aucune honte à aller avec des danseurs thaïs plus jeunes que moi qui ont plus de patates, mais le fait de partager ce love de la danse, on me disait, hey, j'étais quand même à Phuket là, j'étais avec des b-boys de Phuket, des jeunes Thaïs, on a dansé cher, je kiffe, je suis au top, tu vois, je me dis non, magnifique, ma life est comblée, tu vois, je suis vraiment dans une dynamique incroyable. Et ouais, bah partout, hein. Là, tu trouves des danseurs au Népal, tu vas au Ghana, t'en trouves, tu vas au Sénégal, il y a une team très forte. C'est partout, hein, ça grouille. Hein. Le b-boying, en fait, justement, c'est simplement que tant qu'ici en Suisse, on n'a pas assez de plateforme pour montrer la dimension internationale de ce qu'on fait, en invitant ces artistes à Genève, ben, on est toujours qualifié au rang d'artistes locaux qui font ça à petite échelle, machin. Alors que moi, dans mon agenda, là, dans mon carnet de contact, voilà les danseurs que j'en connais et voilà les DJ que j'en connais. Hein. Mais voilà, il n'y a pas de raison que moi, je privilégie les artistes étrangers. Parce qu'ils viennent d'étrangers, je vais lui payer des pontes et pas avoir de quoi rémunérer à juste valeur mon gars à moi, mon DJ Genève. Ça, non. Tant que... Voilà, je vais me priver un peu, mais tant que j'aurai pas trouvé cette stabilité qui permet de à chaque fois faire un événement et de pouvoir rémunérer ou du moins défrayer, parce qu'on parle pas de salaire, mais un défraiement correct pour chaque DJ que je vais venir, pour chaque artiste que je vais venir, je patienterai. Parce que cela va de soi, tu peux pas solliciter un DJ et le payer 100 balles alors qu'il va te mettre 6 heures de musique, c'est une insulte. Ouais. C'est honteux, c'est catastrophique. Ouais, et il y en a, ils se permettent de le faire, aussi bien dans des événements de danse que dans des clubs. Alors que les clubs, ils peuvent afficher des 13, 14 000 francs de chiffre au bar. Ouais. C'est juste aberrant. À un moment donné, il faut restituer aux DJ ce qui leur appartient. C'est eux qui ont les platines, c'est eux qui ont la musique. Les mecs, ils collectionnent du son depuis au moins 10, 15, 20 ans pour certains. Et ils achètent leur musique. Donc à un moment donné...
Tout à fait, il faut un équilibre.
Voilà, et puis après, ceux qui spéculent et qui disent « Non, mais moi, je vais 1500 balles pour 2 heures de mix. » Mais ça les regarde. Ouais. Ils auront moins de dates. Mais le DJ qui est là depuis un certain nombre d'années, qui en plus a un public. C'est-à-dire qu'il y a des DJ, ils débarquent du jour au lendemain. Sur DJ, ils prennent leur mixette, leur machin, Serato. On les a jamais vus nulle part.
Il y a aussi, par exemple, le mec qui a fait 20 ans de boxe thaï et qui touche 150 balles pour faire videur toute la nuit et risquer de se prendre un coup de couteau.
Voilà, exactement, tu vois. Alors que le gars, il a des ceintures, il a des machins, mais tu vois. Et avec toute l'humilité du monde, hein, vraiment, par exemple, que ce soit la danse ou la boxe thaïlandaise, j'ai conscience qu'on est plein dans le monde, partout. Et c'est un art ancestral, donc il faut faire vraiment preuve d'humilité et se dire qu'on est apprenti. La danse, il y a des gars, ils ont passé 50 ans, ils sont encore là à donner des workshops, ils sont encore là, j'ai presque la moitié de leur âge, et eux ils sont encore là, donc on n'a pas d'excuses, il faut y aller, il faut aller au charbon, il faut aller chercher l'information, il faut suer, il faut prendre des coups. Si vraiment on veut se sentir pleinement impliqué dans ce qu'on fait et que vraiment on l'aime, on va prendre des coups, il faut pas rêver. On va suer, on va souffrir, on va... tu vois, il y en a en fait, c'est ça. Il y en a, ils aiment profondément ce qu'ils font. Il y en a, ils le font pour se donner une valeur sociale. Moi, j'ai pas attendu... Je me suis pas dit, non, mais je vais continuer à danser qu'à condition qu'on me donne de l'argent. Ça fait partie de moi, je danserai jusqu'à mes 80 ans. Hein ? Mais il y en a d'autres, ils ont voulu utiliser des arts ou des sports pour se faire valoir dans la société. Pour qu'on leur donne une place. Tu l'as déjà ta place. Tu l'as déjà ta place, simplement que tu sais peut-être pas qu'est-ce qui te définit le mieux. Et ça, il n'y a personne qui pourra t'aider. C'est toi qui, par le biais de tes expériences, qui ira chercher ça, justement.
Tout à fait.
Donc voilà.
Alors, on arrive à la fin de l'émission. J'ai passé un super moment.
Excellent.
Avec toi, Tony, en tout cas. Ton expérience a été super fructueuse.
Merci à vous.
Et j'espère que tu continueras comme ça. On sera là pour te suivre, etc. Et je tenais quand même à...
J'aurais bien voulu mettre un morceau à la fin, mais je vous demandais si c'est possible.
Oui, justement, c'est ça. Donc, quel morceau veux-tu déjà pour...
Alors, c'est un artiste de New York qui s'appelle Dave East.
Dave East,
voilà, ouais. Et le morceau s'appelle Grateful.
Avant qu'on passe cette chanson, parce qu'après on va quitter l'antenne,
yes.
Je voulais savoir, t'as des projets à venir encore, que ce soit dans la danse, la boxe,
pour la boxe, ce sera pas avant le mois de mai, je pense. Nos combattants, ils sont toujours là. Big up à eux, d'ailleurs, à toute l'équipe du City Shock Muay Thai. Il y aura des combats pour certains. Il y en a qui vont combattre en Italie prochainement. Un des fils du coach a gagné son combat récemment avec un des autres membres du club qui est un des boxeurs les plus titrés du club et tout. Pour ce qui est de la danse, en fait, là, ben, on est un petit peu sur plusieurs pôles. Le premier, c'est qu'on aimerait continuer à faire nos événements de danse, notamment le Street Dance Consortium qu'on a initié en 2012. C'est un bateau où il y a le public et les jurys qui votent pour déterminer les vainqueurs. Je veux pas trop m'enflammer, mais voilà, les prochaines dates, si tout va bien, ce sera le 13 avril, le 28 avril et le 6 mai. Donc voilà, mais il y aura toutes les informations sur les sites positivesoul.ca, sur la page Positive Soul Geneva. Voilà, si tout va bien, il y aura une jam à la Macno le 13 avril. Le 28 avril, on sera quelque part, je ne peux pas encore confirmer, mais c'est quasiment sûr. Voilà, à l'usine, si tout va bien, pour une jam qui risque d'être vraiment massive. Et le 6 mai, on sera à l'Undertown pour le Street Dance Consortium numéro 16. Ce sera peut-être le 17 du coup. Et voilà, peut-être les fêtes de la musique, peut-être les fêtes de Genève. Mais nous, on est en quête d'indépendance. D'ailleurs, à toutes les personnes qui écouteront cette interview de Radio Sans Chaîne, voilà, le Positive Soul est à la recherche de mécènes, de partenaires, de gens qui pourraient subventionner nos événements. Parce qu'on est vraiment dans une dimension de pédagogie. Il y a aussi la team Breaking Flavor de mon gars Eldro, qui a fait un magnifique workshop avec B-Boy Machine. C'était vraiment juste incroyable. C'était vraiment incroyable parce que voilà, d'avoir un ancien comme ça, qui il a déjà 40 ans, hein, ouais, mais avec une telle fraîcheur, une telle jeunesse, une telle vivacité d'esprit, une telle faim, cette envie de transmettre et tout, ça nous a mis, c'était un bol d'air magnifique pour nous parce que voilà, on n'a pas encore les moyens de pouvoir voyager en équipe, partir à 4, 5, 6, prendre des billets d'avion sans réfléchir, tac, 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 allez, on va là-bas, on bouge, on n'en est pas encore là. Donc, aussi bien que ce soit pour l'organisation d'événements, que ce soit pour donner les cours, ou pour nous aider à monter des projets qui permettent à des jeunes ados d'aller dans des pays qui pourraient peut-être pas aller, mais à travers la danse avec un fil conducteur et pas juste les envoyer comme ça dans la nature, c'est vraiment ça qu'on cherche à développer. Et je dirais que l'ultime, vraiment le must du must du must pour nous, ce serait vraiment d'avoir ce centre dans lequel on pourrait aller danser, mixer, rapper, chanter, graffer, faire de la photo, faire de la vidéo et faire nos soirées aussi, faire nos événements nocturnes et diurnes. On n'est pas que nous, on veut pas forcément faire du clubbing, on veut juste, même si c'est les dimanches, les samedis, après on s'en fout, nous. Mais du moment qu'on a un lieu qui nous est dédié et dans lequel on sait qu'il y aura ça et pas autre chose. Pas qu'on soit tout le temps imbriqué dans un autre truc parce que si, parce que ça, ça fait toujours bien. Non, aujourd'hui ce mouvement il est là, on peut plus nier. Après tous mes voyages, il est hors de question que quelqu'un vienne me dire ouais, vous savez, vous êtes des petits. Je dis non, c'est la Suisse qui est petite. Il faut dissocier. Nous on arrive à quand même faire des événements, on arrive à gêner des 300, des 400, des 500, des 600 personnes, alors qu'il n'y a pas forcément de stars dans nos événements, alors qu'il y a des stars qui font des concerts à Genève et c'est des flops et les gays mettent des thunes dedans, hein. Vu le déficit que les fêtes de Genève a fait, ben, tous les responsables d'institutions publiques devraient réfléchir à comment réinvestir leur argent, surtout que nos budgets ne sont pas immenses. C'est, on ne demande pas des 500 000 francs suisses pour un truc de 2 jours. Que les gars se mettent bien ça dans la tête, parce qu'on n'est pas des gratteurs. On est des gens qui avons un vrai background du terrain, on a appris à connaître le langage des administrations, etc. etc. On veut juste de la considération et du respect, et que la dimension business, si des gens veulent l'inclure, il n'y a pas de problème. Mais il faut juste qu'ils tiennent compte de nos prérogatives aussi. On n'ira pas faire des événements si on est sponsorisé par des gens qui, au final, créent la misère dans d'autres pays du monde. C'est ça. On peut pas travailler avec des structures qui proposent de la nourriture qui, en fait, est mauvaise pour la santé, alors que nous, c'est la santé pour nous qui prime si on veut bien danser. C'est incohérent. Donc à tous les fabricants de boissons énergisantes non nocives pour la santé, à tous les chaînes de restaurants bio, les supermarchés, les mécènes, les philanthropes, les réels, pas BHN, non mais voilà, des gens qui aiment les gens, des gens qui aiment l'humain, des gens qui aiment la jeunesse, qui aiment la voir être émancipée. il faudra pas se plaindre que les jeunes ne font rien. Il faudra pas se plaindre que la jeunesse part en cacahuète si elle n'a jamais eu de plateforme qui lui permettait de s'exprimer à juste titre. Et voilà, moi je suis l'entre-deux. J'ai la chance d'avoir connu le avant et l'après Internet. Donc c'est ces deux pôles que j'aimerais réunir en disant on est tous sous la même cloche. On n'était pas sous la même cloche en même temps, au même moment, mais on est bien sous la même cloche maintenant.
Ouais.
Donc voilà.
En merci à vous en tout cas, c'était super cool. Merci Tony, c'était super enrichissant.
Merci beaucoup.
Merci Charlie aussi.
Merci à toi Sergio, Tony, merci à toi aussi.
Merci Charlie, c'était bon.
Tout
nice.
Bon pour ton futur dans tes passions et tes, ton sport et ton art, on va dire plutôt.
Yes.
Que ta passion.
On va suivre, on va suivre ta carrière et, au fur et à mesure. Hein, donc,
excellent, merci à vous en tout cas. Et puis, ça a été un plaisir de découvrir Radio Sans Chaîne et faut vous booster, comme ça vous avez plus de moyens. Le concept, moi j'ai toujours aimé le concept radio. On a plus de liberté et puis on n'a pas cette question d'image, donc c'est vraiment nice. Donc voilà, si le peu de force que j'ai pu vous donner aujourd'hui,
oui.
Faites avec, c'est cool. Moi ça me fait plaisir en tout
on
cas.
On a appris des
donc,
choses.
Voilà, excellent.
C'est cool. Qu'on a notre place quelque part en tout cas.
Yes, ça.
Alors du coup, on va se quitter avec une chanson. Donc tu nous as choisi, c'est Dave East, Grateful.
Yes.
Et puis, bon après-midi et bon appétit à toutes et à tous.
Bon après-midi.
Excellent, bon merci beaucoup, tout de bon à vous.
Salut, Tony, ciao, ciao.
Juste dernier big up, j'aimerais faire un vrai big up à ma team PS, à ma main DJ Scaras, Monsieur Scarlino, Mr. Scarlino, comme les gens veulent, DJ Scarlino, à ma main Dr. Lodes, à Cédric, à Med et à tous les gens qui nous suivent depuis le day one. À tous les crews de Genève qui font de la danse, qui font bouger leur ville pour de vrai, que ce soit dans le mix, dans le DJing, dans la danse, les équipes soudées qui en veulent et qui aiment vraiment ce qu'ils font. Genre, passe un gros big up à tous. On espère vous voir prochainement, en tout cas, pour la prochaine Positive Sauce, c'est le 13 avril à la Macno. Peace!
À plus!
Closest niggas there for me. They no longer here with me. I'm wide awake, I'm scared to sleep. Afraid though I ain't never been. Grandma said ain't no fear in me. Criminal, I prepared to be. And your feelings won't hear from me. I talk to God, the devil on the other line. Stressing, keep a weapon there. Cause slipping ain't how I'm gonna learn no lesson. Ain't no actors here. I told Bully, I wish this stack was here. Mugger too, my hoodie blue. So much ice, they gon' have to stare. Used to hate my building smell. Half of the homies still in jail. Harlem different, either kill or sell. Or pray they lift your bell. Right rice and tuna fish. Way before Roof Chris, we was broke. I ain't care who was rich. Stick up kids do exist. Hard news, just listen. The dog food was clicking. They moved, bitch, long before I heard of Ludacris. I watched it with my own eyes. Dirty kitchen for home fries. Hygies, if ain't nothing open, just make sure they toast mine. I'm thankful for them steak and cheese. I love the hood, I hate to leave. How the fuck was we trapping outside when it was 8 degrees? I still have a hard time trying to understand why Mace would leave. Gave niggas the reason, plus the truth, I could relate to beans. Free me. I'm just trying to chase a dream. They'd rather us upstate in greens. You never had to chase a fiend. Passed them off a gram, and then they ran before they paid you. Plus you gotta pay your connect, and at your crib it ain't no cable. You can't watch your favorite TV show. Your jacket and your sneakers old. Summertime you make it through, but you ain't trying to see the cold. Niggas turn to strippers when they see the pole. Plant the seed to see it grow. My daughter need 3 million before she 3 years old.
Loyalty and love over everything. Flowers over stones in the quiet sings. How many of them do we know though? Lost so many loved ones and now they gone though. Gone too soon. Streets raising kings and queens, we gotta fight to believe again. Still loyalty and love over everything. Still flowers over stones in the quiet sings. Thank you, I'm grateful. Ooh. In the quiet sings. Thank you, Lord, I'm grateful. Thank you, Lord, I'm grateful.
Just thankful to be here. diamond ring, I feel that bullet. Hood insane, wish I could change it, but I couldn't. I'm just grateful for them whoopers. My pops used to give us to keep us out the street. In the projects, the water cold, at least 3 days out the week. It's real talk, I done seen some shit, wake you out your sleep. Lit the crib up with candles, felt like the lights was out for weeks. I ain't had a drive, wanted to survive until I found the keys. 220 on the dash, and yes, we taxing, we got mouths to feed. Thank you, Lord, I'm grateful, Lord. If I got it, I blame you, Lord. My life had been dangerous, Lord. My faith in you could change it, Lord. Wasn't trying to scare niggas, foreheads was what we was aiming for. I lived on the six, they raided the crib, might have to change the door. Let's figure out a way to make them hate some more. Fuck the way the system's set up. Every day I break the law. Spend some money, make some more. Never thought I'd make it poor. Imagine we was taking score. Militant, I relate the war. Thankful for my only child. Selling out these shows that make my homie smile. Wake up in Miami to hit an ocean sand. Grateful I seen 18. Grateful I seen 21. Grateful that my pops ain't throw me out. He found my nigga gun. Of course I said it wasn't mine. Running to the park, told my father, let's talk another time. Cause he ain't know I want the rhyme. 38, I kept it on me. I blow it like a runny nose. In the projects with like three bitches. To Diddy crib with 100 hoes. Stomach growling, I don't take it for granted. I come from housing. I need some shit come with a water fountain. My daughter smiling, I'm thankful Freaky told me to rap. Thankful Jungle paid attention. The streets could never hold me back.
Loyalty and love over everything. Flowers over stones and the choir sings. How many of you do we want the thankful jungle? Lost many streets and never owned. Gone through some streets raising kings and queens. We gotta fight to believe again. Still loyalty and love over everything. Still flowers over stones and the choir sings.
Thank you, I'm grateful.
Thank you, Lord, I'm grateful. Oh, thank you, Lord, I'm grateful.